Musique de Philippe Glass qui est très chère au cœur de ma prochaine invitée, c'est Marianne Chaillant. Bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour Catherine.
Elle est auteure et professeure de philosophie en France. On lui avait parlé l'an dernier pour son livre « In Pop We Trust », un livre de philosophie qui s'inspire des grandes figures de la culture populaire comme le Joker, Friends, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars. Et cette année, elle fait paraître, toujours en France, le livre « Où donc est le bonheur ? » C'est aux éditions des Équateurs. Le livre est déjà disponible en ligne. Il va arriver tout bientôt dans nos librairies en janvier, semble-t-il. Alors, Marianne Chaillant, dites-moi, ce livre, donc, entre autres, vous faites une place importante à ce film dont la musique qu'on vient d'entendre est tirée, le film « The Hours » de Stephen Daldry, en parlant, entre autres, de l'impact qu'il a eu sur vous. C'est un sujet, est-ce que je me trompe, ou c'est un sujet qui vous a forcé à vous mouiller, comme on dit ici, à vous commettre un peu plus, à vous impliquer personnellement?
Vous avez tout à fait raison, Catherine. Dans ce livre, c'est à la fois un livre de philosophie, un essai, mais c'est vrai qu'il y a une part très forte d'intimité. D'ailleurs, parce que j'ai une relation à la philosophie qui est une relation existentielle, et j'essaye donc non pas de proposer au lecteur un essai théorique, c'est vraiment ce que la philosophie peut nous apporter, ce qu'elle m'a apporté, moi en tout cas, dans ma recherche du bonheur.
Alors donc, revenons à ce film, parce que ce film, il est très riche en enseignements sur, justement, sur la recherche du bonheur, ce qui fait qu'on le trouve ou pas dans la vie. Vous avez, entre autres, cette musique. Quel effet elle a eu sur vous, cette musique de Philippe Glass?
Elle m'a saisie au moment où je rentrais dans la salle de cinéma, parce que elle démarre tout de suite, elle démarre le film et on assiste au suicide de Virginia Woolf dans la première scène, et j'ai compris tout de suite dès les premières images que c'est un film qui allait me bouleverser. Alors vos auditeurs doivent peut-être être surpris parce qu'ils ont entendu l'aspect un peu mélancolique de cette musique. Ils se disent, mais c'est un paradoxe.
Surtout
on nous parle d'un livre sur le bonheur.
Et puis vous ajoutez du même coup que le film commence avec le suicide de Virginia Woolf.
Oui,
alors effectivement, oui. Où est le bonheur?
Oui.
Ça va avec le titre.
Oui, et là c'est un paradoxe que vos auditeurs peuvent sentir. Comment parler de bonheur sur une musique aussi triste? Justement, ce que j'essaye de défendre dans le livre, c'est que le bonheur, s'il existe, et il existe, j'y crois, ne réside pas du tout dans cette illusion qu'on nous vend continuellement de cette plénitude absolue, d'un ciel bleu sans nuages. Non, le bonheur, c'est cet amour qu'on a pour la vie, qu'on peut avoir, c'est pas facile, hein, pour la vie telle qu'elle est, dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire aussi y compris dans la souffrance qu'elle nous donnera à vivre, dans toutes les douleurs, dans tous les deuils que nous aurons à faire, qui seront l'envers aussi des joies que nous aurons vécues. Et être heureux, c'est pouvoir tout appréhender, tout saisir et aimer sa vie entièrement. C'est, je crois, la leçon que nous donne le film The Hour, dont est tirée la musique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si
Absolument.
Vos auditeurs l'ont vu. C'est un film qui n'est pas empli de joie, de plaisir, de jouissance. Non, c'est le portrait de trois femmes. L'une d'entre elles incarne le concept commun de bonheur, c'est-à-dire elle satisfait à cette espèce de liste qu'on a. Elle a une famille, elle a une maison, elle fait tout ce qu'il faut. Elle a apparemment tout pour être heureuse, et pourtant elle n'est pas heureuse.
Ah oui, et c'est saisissant, elle est jouée par Julianne Moore, et c'est inoubliable.
Exactement.
Le portrait de cette
Exactement.
Femme d'une fragilité intérieure incroyable, ouais.
Son personnage est très intéressant parce qu'il nous montre ce qu'il y a d'illusoire et de toxique pour
ouais.
notre propre recherche du bonheur, que ce concept-là de bonheur qu'on nous donne continuellement en modèle et entoure ce personnage comme dans un triptyque. Le personnage de Virginia Woolf et celui qui est joué par Meryl Streep, qui sont deux femmes dont les vies sont vraiment cabossées, dont les vies sont emplies de souffrances, dont les vies sont incomplètes. Et pourtant, et paradoxalement, ces femmes-là sont heureuses. Et d'ailleurs, le film est porté par cette phrase magnifique que Virginia Woolf a réellement écrite au moment de se donner la mort. Elle écrit à son mari « Je ne pense pas que deux personnes aient pu être plus heureuses que nous l'avons été ». Ce qui est quand même paradoxal, mais qui va dans le sens de ce que j'essaye de défendre. Le bonheur, c'est pas chanter comme Pharrell Williams « I'm happy
»
en sautant partout. Le bonheur, non, c'est cet air-là qui est qui au fond l'air de la vie elle-même. Et quand on en apprécie la saveur, bien que cette saveur soit parfois douloureuse, alors c'est ça l'état de bonheur.
Ouais. En même temps, je tiens ici, c'est quand même important de faire une petite prendre une petite précaution et de dire que le bonheur ne mène pas, bien sûr, fatalement au suicide. La Virginia Woolf était très malade. Elle avait une maladie psychique qui l'affectait exactement. Énormément, mais elle a pu saisir quelque chose de la vie. Elle aura réussi à être heureuse. Donc, ce qui nous amène à cette idée que vous évoquiez d'emblée, le bonheur, ce n'est pas l'absence de souffrance. Et ça, il y a des philosophes, bien sûr, qui ont parlé de ça. Et encore une fois, dans ce livre, vous appuyez sur plusieurs philosophes. À votre avis, lesquels sont les plus intéressants dans cette idée que le bonheur ne doit pas se chercher simplement comme une absence de souffrance?
Moi, j'en distingue trois. Nietzsche, qui nous apprend que l'épreuve cruciale que nous devons faire envers la vie, c'est ce test qu'il appelle de l'éternel retour. C'est-à-dire, est-ce qu'on serait capable, vous, moi et nos auditeurs, de revivre notre vie telle que nous l'avons vécue, sans rien pouvoir changer, et la revivre non pas simplement une fois, mais une éternité de fois. Alors, ce que Nietzsche nous demande, c'est pas simplement si nous serions patients, si nous accepterions la répétition, voilà, non, c'est est-ce que nous serions capables de retraverser les douleurs que nous avons vécues? Est-ce que nous serions capables de vouloir la vie en sachant ce qu'elle nous a réservé de douloureux? Si nous sommes capables d'aimer la vie, pour avoir un propos plus léger, j'évoque la chanson de Renaud que vous devez connaître, et de l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Voilà, si nous sommes capables d'aimer la vie et de l'aimer même si, alors nous sommes un homme heureux. C'est la leçon qu'on trouve chez Nietzsche.
Tout à fait.
Oui, parce que ces philosophes-là, en fait, ils nous disent que le bonheur, ce n'est pas le moment où on aurait réalisé notre essence, où on serait vraiment devenu qui on est. D'ailleurs, devenir qui on est, c'est un peu cette promesse fallacieuse que nous tiennent les ouvrages de développement personnel. Devenez qui vous êtes et vous serez pleinement heureux. Non, les philosophes, je vous rappelle d'ailleurs, vous savez bien que la philosophie est née sur cette promesse-là, de nous donner les moyens de parvenir au bonheur. Alors évidemment, la recette de la philosophie est plus ardue, plus amère que la recette du développement personnel. Mais elle nous dit, le bonheur, c'est pas ça, c'est pas parvenir à la complétude, c'est pas la joie sans la douleur, c'est pas la vie sans la souffrance. Ouais. Voilà, c'est cette capacité à assumer une confrontation avec la souffrance, avec le deuil, avec l'incomplétude, avec l'incertitude douloureuse.
Ouais, le fameux amor fati de Nietzsche. Embrasse, aime ton destin et embrasse tout ce qui vient avec. Et c'est pourquoi, en sens contraire, et pour évoquer pourquoi pas une autre chanson, vous dites attention, il y a un danger à penser qu'on peut figer le bonheur, qu'on peut, comme Édith Piaf voudrait le faire, par exemple, suspendre le temps. Alors, tu sais, je vous propose d'en écouter un tout petit extrait.
Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, huit jours.
Alors oui, suspendre le temps, c'est un fantasme bien humain, mais en quoi est-ce que c'est vain? En quoi est-ce que la philosophie nous apprend que c'est vain, Marianne Chaillant?
Bien, quand j'écoute Édith Piaf, merveilleuse chanson, je suis loin de juger le cri qu'elle pousse. Moi-même, combien de fois je pousse ce cri quand on est avec quelqu'un qu'on aime, quand on vit un moment qui nous réjouit, on pousse comme elle ce cri, on voudrait que l'instant perdure. Je suis sûre que nous sommes nombreux à l'avoir fait, mais du coup, nous sommes nombreux aussi à savoir ce qu'il nous en a coûté de vouloir que l'instant perdure, parce que par définition, l'instant ne peut pas durer, et qu'au moment même où nous avons poussé ce cri, nous avons été déchus, en quelque sorte, de la joie que nous éprouvions, puisque nous savions déjà, nous sentions déjà qu'elle allait nous échapper. En fait, le désir de bonheur, en tant qu'il est désir de vouloir éterniser l'instant, c'est quelque chose qui nous damne immédiatement, qui fait de nous la proie du malheur.
Voilà.
C'est une leçon qu'on va trouver, par exemple, dans un livre de Goethe qui s'appelle Faust.
Oui.
Et Faust passe le pacte avec Méphistophélès, le diable en personne. Et ce que ça nous apprend, c'est que si nous poussons ce cri, si un jour nous voulons garder l'instant, et hélas, hein, nous voulons le faire bien souvent, nous serons automatiquement la proie du diable, c'est-à-dire nous aurons déchu la possibilité de connaître le bonheur.
Ouais. Alors oui, c'est ce genre de paradoxe, et ils sont nombreux, vous les exposez, parfois ça semble cruel, mais c'est extrêmement intéressant. Entre autres, je n'avais jamais compris à quel point on comprenait mal, en tout cas moi, je comprenais mal Épicure. Épicure, c'est censé être celui qui dit « Allons, vivons, saisissons-nous de tous les plaisirs », mais non, c'est beaucoup plus subtil que ça.
Alors, c'est vrai qu'on pense que les épicuriens, ce sont ces bons vivants qui saisissent tous les plaisirs dès qu'ils passent, alors qu'effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus ascétique chez eux. Hein. L'objectif n'est pas le plaisir, l'objectif est le bonheur. Et à ce titre, ils vont nous apprendre à faire le tri parmi nos plaisirs. Il va y avoir tout un calcul des plaisirs afin d'atteindre le bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est ni le plaisir, comme on l'apprend avec Épicure, ce n'est pas non plus la satisfaction. Ce n'est pas non plus la joie, qui est quelque chose de très agréable à vivre, hein. La joie, la jouissance, très bien. Mais c'est encore autre chose que de viser le bonheur. Et là où le concept de bonheur est dangereux, très dangereux. Très dangereux, pourquoi ? Parce que je ne sais pas si c'est pareil au Canada, mais moi, en France, j'ai l'impression d'avoir diagnostiqué une forme d'injonction qui nous est faite d'être heureux. Nous devons être heureux. Et si
oui.
nous sentons malheureux, alors c'est qu'on a raté quelque chose. Et cette injonction est très dangereuse parce que non seulement donc elle nous dit qu'il faut être heureux, mais c'est qu'elle fait reposer le bonheur sur une vision totalement inatteignable. Elle nous dit le bonheur, c'est la plénitude. C'est, comme le dit le personnage de Jean Anouilh, Antigone, je veux tout, tout de suite et que ce soit entier. Donc le bonheur, ce serait la satisfaction de tous nos désirs, de façon durable et au plus grand degré d'intensité. Et alors on se regarde soi-même, on se dit, tiens, est-ce que j'ai atteint ça? Est-ce que j'ai réalisé tout ce que je voulais? Est-ce que je suis parvenue à cet état de complétude? Est-ce que moi aussi, je suis enfin dans cet état de satisfaction absolue? Bien sûr que non.
Parce que la vie
se caractérise par l'incomplétude, par le manque. Et le manque nous paraît alors comme un échec, un défaut. Et c'est donc le concept de bonheur lui-même qui est la cause que nous sommes profondément malheureux parce que nous pensons avoir échoué quelque part.
Ouais.
Le concept, je dirais, commun du bonheur, hein, puisque je propose un autre concept avec les philosophes, bien sûr, qui me paraît
plus constructif, plus adéquat. Et on va terminer en y revenant. Donc, cette idée, et c'est ce que vous allez faire beaucoup dans toute la deuxième partie du livre, c'est de nous expliquer, toujours en vous appuyant sur des philosophes, à quel point cette façon plutôt d'embrasser la vie avec tout ce qui vient avec, c'est à peu près la seule chance qu'on a d'être dans un certain niveau de bonheur.
Oui, alors évidemment, c'est extrêmement épuisant, c'est extrêmement fatigant. Mais oui, quelle tâche épuisante que d'exister, que d'oser choisir, renoncer, affirmer, tenter, perdre, se relever, assumer, recommencer. C'est infiniment plus simple de suivre une route balisée par avance. C'est pas dit pour autant qu'on y trouve le bonheur, comme le personnage de Julianne Moore nous le montre dans The Hours. Hein. Voilà, il faut vraiment se défaire de cette idée que il faudrait se libérer de la maladie, de la vieillesse, de l'angoisse, de la douleur et de la mort pour être heureux. Voilà,
oui.
C'est pas ça. Et il faudrait être capable, en fait. Comme si nous étions en train de nous marier avec quelqu'un, de nous tenir face à notre vie, non pas face à une personne, mais face à notre vie, et lui dire, eh bien, je te prends pour le meilleur et pour le pire.
Oui, c'est
si
vrai.
Si nous avons cette force-là, alors c'est en cela que consiste le bonheur.
Oui. Et donc, vous avez, à la fin du livre, un écho au tout début, parce que votre grand-mère vous avait posé la question du fameux questionnaire de Proust, quelle serait votre définition du bonheur? Et à la fin de sa vie, elle vous dira quoi, Marianne Chaillant?
Oui, elle m'a fait ce compliment merveilleux. Elle m'a dit, les autres se contentent de vivre, toi, tu existes. Et c'est effectivement une des distinctions fondamentales que j'essaye de développer dans le livre, entre le simple fait de vivre biologiquement, ce que nous faisons tous, et avoir le courage, parce que je le disais tout à l'heure, c'est une tâche épuisante, d'essayer que d'exister, c'est-à-dire vraiment de s'emparer de sa propre existence, de s'emparer d'un stylo et d'écrire sa propre rime, comme le dit le poème de Whitman que je cite aussi et que reprend ce professeur du cercle des poètes disparus, dont je m'inspire un peu dans le livre. Voilà, oui, le compliment qu'elle me faisait, c'était cette idée que, eh bien, à ses yeux, j'avais, ce à quoi je m'attelle chaque jour, ce courage d'exister qui ne signifie pas qu'on réussit tout, mais au moins qu'on vit pleinement et peut-être que c'est là la clé du bonheur.
Alors, Marianne Chaillant, j'invite nos auditeurs à vous lire. J'ai pensé beaucoup aux jeunes adultes. Comme vous êtes professeur, justement, de lycée, des élèves qui sont assez avancés dans leur parcours d'études, je me disais, effectivement, beau cadeau à faire à des jeunes adultes, ce livre qui s'intitule « Où donc est le bonheur » qu'elle publie. Là, c'est tout récent. En France, le livre est déjà en librairie. Ici, il devait être rendu, mais ce sera pour tout de suite après les fêtes. Et c'est les éditions des Équateurs qui nous le proposent. Merci beaucoup pour cet entretien. Marianne Chaillant.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.